radio. Okapi, Okapi.
Okapi Service, Jody Daniel Kachama.
Okapi.
Fidèles auditeurs, bienvenue dans cette deuxième partie de votre magazine de la vie au quotidien au Capi Service. Nous allons parler à présent de l'employabilité des jeunes, comment améliorer, comment accroître l'employabilité des jeunes pour les préparer, voilà, évidemment à l'emploi, aux réalités du monde de l'emploi. On en parle aujourd'hui avec M. Alain Poutou, expert en ressources humaines et formateur au Centre des formations et des réconversions professionnelles. M. Poutou, bonjour.
Bonjour, Monsieur les journalistes, merci de votre invitation.
Bienvenue dans cette émission. Et si tout marche bien, on aura également M. Joseph Moutamboulé, directeur général des HCDIC, une structure de développement du capital humain basée à Lubumbashi dans le Haut-Katanga. Des questions et préoccupations, n'hésitez pas, appelez-nous déjà pour participer à cette émission au 085 42 11 547. 085 42 11 547. Écrivez-nous également à service@radiocapi.net. Toute l'équipe est en place pour vous servir. Benjamin Moudoumbi assure la coordination et la réalisation de cette émission. Sylvain Barouguer est à la mise en onde. Esther Mamboté assure les lives sur les plateformes digitales des radios Okapi. Au micro, Jody Daniel Kachama. Bienvenue à tous.
Okapi. Okapi.
Okapi. Fréquence de la paix.
Bien, de nombreux jeunes ont du mal à trouver un emploi décent et de les garder longtemps. Le nombre des sans-emplois ne fait qu'augmenter et les opportunités sont de plus en plus rares. Parfois, les opportunités se présentent, mais ces jeunes ne sont pas qualifiés par manque de connaissances et des capacités requises malgré leur diplôme universitaire. Pour les experts, le programme d'enseignement supérieur en RDC ne répond pas souvent aux demandes, aux exigences du marché du travail. En outre, les requérants, ces jeunes ne savent pas comment procéder pour trouver des places vacantes, encore moins savoir quels sont les emplois disponibles et les profils recherchés pour mieux préparer leur candidature. Alors, que faire pour les aider à mieux se positionner sur le marché de l'emploi, à bien préparer leur candidature, au fait, à améliorer leur employabilité? On en parle avec Alain Poutou, coach, il est expert en ressources humaines et formateur au Centre de formation et des réconversions professionnelles. Monsieur Alain Poutou, quels sont les problèmes qui se posent dans notre pays par rapport à l'employabilité des jeunes? On peut avoir son diplôme universitaire, mais on n'est pas employable.
Oui, mais monsieur le journaliste, merci beaucoup encore une fois pour votre invitation et je profite de votre micro pour saluer tous les auditeurs de la radio Okapi, particulièrement les abonnés d'Okapi Service et de l'école de la reconversion professionnelle. Comme vous le savez, votre magazine est devenu aujourd'hui comme une messe. Dès que vous annoncez le sujet, moi j'essaye un peu de regarder les commentaires des internautes, mais je vous assure, c'est vraiment une prédication en fait que vous êtes en train de faire en ce qui concerne la reconversion professionnelle. Et nous, étant les messagers de la bonne nouvelle de la reconversion professionnelle, à chaque fois que vous faites appel à nous pour qu'on vienne prêcher la reconversion, nous ne pouvons pas hésiter pour être ici. Alors, le problème c'est quoi, monsieur le journaliste? Malgré les efforts que le gouvernement est en train de conjuguer pour réduire sensiblement les taux du chômage, mais il y a des causes majeures, des causes profondes qui font en sorte que les taux du chômage dans notre pays ne fait que
augmenter.
Augmenter. Parce que j'ai plusieurs fois dit ça ici, qu'un problème mal compris sera mal résolu. Parce qu'on devait normalement aller aux causes, on doit analyser les causes profondes pour à ce qu'on arrive à faire une proposition concrète et parfaite. Parce que ici, monsieur le journaliste, il faut très bien circonscrire la problématique. Nous avons d'une part les produits que les universités déversent sur les marchés de l'emploi, ce que je peux considérer comme diplôme. Mais de l'autre côté, il y a les recruteurs, c'est-à-dire ceux qui recrutent, c'est-à-dire les marchés de l'emploi. Mais aux côtés de ces marchés de l'emploi, il y a les besoins réels du marché. Donc, le plus grand problème, c'est quoi? C'est que lorsque nous formons, ou lorsque on forme en mettant en place un système éducatif, on est plus allé dans la vocation, dans la philosophie de l'université. Donc, former l'élite, former une personne intégrale, dont on dote des compétences conceptuelles, des compétences de réflexion, mais on n'a pas, au fait, regardé aussi l'autre côté du marché, c'est-à-dire les besoins réels du marché de l'emploi. Parce que le marché de l'emploi est en pleine évolution. Mais le système éducatif est resté obsolète, c'est-à-dire c'est le même programme ou le même système que
qui
nous avons
voilà, avec
hérité de l'époque coloniale. Alors, à cette époque-là, les programmes correspondaient aux besoins réels du marché. Là, on parle des années 54, 56, même voilà, 20 ou 30 ans après l'indépendance. Mais à partir déjà de 1991, je crois qu'on a eu le piège ici, c'est 91 ou 93 si je ne me trompe.
Oui.
Alors, il n'y avait plus des entreprises. Avec les piages, il y a plus on n'a plus d'entreprises. L'économie a vraiment subi un choc énorme. Mais maintenant, le marché de l'emploi est orienté en ce moment-là à l'informel, c'est-à-dire les indépendants, les libéraux, et l'arrivée massive des organisations internationales et multinationales. Alors, eux ont aussi leurs propres besoins, que malheureusement, les universités, notre système éducatif, n'a pas pris des précautions pour interroger les marchés afin que les programmes soit adapté aux besoins réels du marché de l'emploi.
Alors, le pillage, c'était en 1991.
Voilà, tout à fait. Voilà, c'est comme ça que je disais entre 91 et 93, si mes souvenirs ne me trahissent pas.
C'est
alors,
ça.
Maintenant, le marché est en pleine mutation. Le système éducatif est resté
le même.
Vous pouvez être, par exemple, à l'université, on vous dit qu'on forme des futurs cadres. Mais comment pouvez-vous imaginer, monsieur le journaliste, qu'on soit en train de former un futur cadre mais avec les enseignements d'hier, où on va parler de David Ricardo, d'Henri Fayol, de Kotler, de Jean-Baptiste Say, de Taylor. Mais ça, ce sont les anciennes théories. Comment on peut être en 2026, mais nos enseignements sont encore basés sur les vieilles théories qui ont été conçues peut-être par rapport aux besoins de cette époque-là.
Oui.
Alors, on devait avoir des enseignements actualiser des enseignements contextualisés par rapport aux besoins réels et actuels du marché de l'emploi. Ça, c'est le premier, je peux dire quoi, c'est la première cause. La deuxième maintenant, c'est dans les chefs de ceux qui cherchent de l'emploi, les chercheurs d'emploi eux-mêmes. Vous savez, aujourd'hui, monsieur les journalistes, les gens dans leur tête ont toujours cru qu'il faut chercher de l'emploi qu'à des postes qui correspondent à ce qu'on a fait comme études.
Oui. Or, ce n'est pas
tout. Non, ce n'est pas le cas. C'est comme ça qu'on dit qu'il y a un problème d'une mauvaise orientation. C'est-à-dire qu'on n'a pas préparé les gens à partir de l'université. L'université n'a pas su, dans son programme, intégrer une dimension d'orientation et d'accompagnement professionnel. C'est-à-dire dire clairement, par exemple, aux étudiants, les universités devaient faire quoi? Aller sur terrain, essayer un peu de s'enquérir des besoins réels
des entreprises,
du marché de l'emploi, et venir communiquer ces besoins-là aux étudiants à partir de l'université. Et aussi, essayer de connaître les exigences de ces besoins, les communiquer aussi également aux étudiants. Par exemple, il y a des étudiants qui font la comptabilité à l'université. C'est une formation académique, une formation classique. Mais si vous allez dans une entreprise, vous approchez un comptable, vous essayez d'échanger avec le comptable pour qu'il vous explique les métiers, ce qu'il fait concrètement au bureau. Mmh. Je pense que vous aurez des informations qui viendront renforcer ou compléter les enseignements dispensés à l'université. Vous allez me dire que les étudiants ont une période de stage, mais quel stage? Ce ne sont pas toutes les entreprises qui acceptent facilement
d'offrir l'opportunité de stage.
Voilà, l'opportunité de stage. Et mais aussi, même quand elles ouvrent ça, c'est rare de trouver une entreprise, par exemple, qui apprend à l'étudiant les métiers.
Alors maintenant, comment un jeune qui veut avoir le travail peut augmenter sa valeur sur le marché?
Oui, mais les jeunes qui veulent avoir le travail, lui, devait commencer à chercher cet emploi à partir de l'université.
C'est pas après.
Non, ça c'est une erreur. Il ne faut pas chercher de l'emploi à la sortie de l'université, non. Lorsqu'on finit des études universitaires, il y a la période d'intégration ou d'orientation professionnelle. Je l'ai dit l'autre fois ici qu'il faut mettre à profit 6 à 12 mois après avoir obtenu son diplôme universitaire. Cette période-là, c'est une période où vous êtes en train de vous équiper pour avoir un profil qui correspond au profil recherché par le recruteur. C'est-à-dire, vous devez déjà prendre la température du marché de l'emploi, parce que c'est important. Vous êtes licencié en droit, licencié en relations internationales, n'importe quelle filière que vous avez choisie à l'université, vous terminez, c'est une bonne chose. Maintenant, la question, est-ce que ce que je fais comme étude correspond aux opportunités que je trouve sur le marché de l'emploi? D'abord, il faudrait connaître ces opportunités. Raison pour laquelle il est important aux étudiants, même ceux qui nous suivent, même les parents, vous devez mettre en place ce qu'on appelle les réseaux et les connexions. C'est-à-dire quoi? Ici, on ne parle pas des réseaux comme les gens disent. Vous vous souvenez, une fois, un auditeur nous a dit ici à l'antenne que pour trouver de l'emploi chez l'État, il faut avoir des relations. Je ne parle pas de ces réseaux-là. Je parle plutôt d'une personne qui peut vous fournir au temps réel les informations sur les opportunités du marché de l'emploi. C'est-à-dire, par exemple, vous ici, vous êtes au bureau, vous avez l'internet, vous avez un ordinateur, vous avez la facilité de consulter régulièrement l'internet. Une fois que vous apprenez qu'il y a une opportunité d'emploi quelque part, vous devez être diligent pour prendre cette opportunité-là, envoyer à ces jeunes diplômés. Mais le problème avec eux, c'est quoi? C'est que, en fait, ils sont dans un même environnement. Il est étudiant, il termine les études universitaires, il ne côtoie que ses collègues, ses amis étudiants, il n'est pas en contact avec les recruteurs. Maintenant, il y a un autre élément aussi, à part le fait de connaître les besoins du marché ainsi que les exigences, là je parle plus du profil. Parce que, monsieur le journaliste, il ne faudrait pas que les jeunes universitaires, les jeunes diplômés, puissent confondre les diplômes à la compétence. Ce n'est pas la même chose. Vous avez votre diplôme en économie appliquée, cela ne veut pas dire que vous avez des compétences techniques pour être comptable, ou vous avez des compétences techniques pour être assistant financier, ou pour être auditeur, ou pour être logisticien.
Et comment avoir ces compétences-là?
Mais justement, il faut se faire former. D'où la nécessité de ce qu'on appelle adéquation, formation et emploi. Donc, vous devez maintenant, c'est comme si, c'est pas que vous reprenez les études, non. Vous avez une qualification académique, vous êtes gradué, vous êtes licencié, vous avez votre DEA ou vous avez votre DS, mais il faudrait maintenant acquérir des compétences techniques, des compétences pratiques en rapport avec les opportunités du marché de l'emploi. Mais la grosse bêtise qu'on met souvent les jeunes universitaires, c'est le fait que eux, ils vont chercher de l'emploi qu'avec leur diplôme académique. Ils n'ont pas une valeur ajoutée à la qualification. Comment pouvez-vous imaginer, monsieur le journaliste, une personne licenciée qui part chercher de l'emploi, lui, ne sait pas utiliser l'ordinateur? Donc, la personne s'hasarde à postuler et lorsqu'on l'invite à l'interview ou à un test professionnel. Prenons le cas des entreprises qui commencent d'abord par les tests professionnels avant de passer par l'entretien d'embauche. Mmh. On vous met devant l'ordinateur, puisque vous avez postulé comme comptable ou comme caissier. On met un fichier en rapport avec le journal des banques ou journal des caisses ou voilà la fiche des stocks ou un fichier des inventaires. On vous dit de les remplir. Vous ne savez pas.
Vous êtes incapable de le faire.
Mais justement, pourquoi? Parce que vous avez été imprudent. Au lieu d'acquérir d'abord des compétences avant, par des formations professionnelles supplémentaires à votre qualification, et venir chercher de l'emploi après, vous avez fait l'inverse. Vous commencez par aller chercher de l'emploi à la sortie de l'université, alors que vous n'avez pas des compétences, vous n'avez pas des profils qui correspondent au profil recherché par les recruteurs. Il y a aussi cette problématique des années d'expérience. C'est là, par moment, j'ai dit aussi, les recruteurs devrait être un peu souple par rapport à cette exigence des années d'expérience.
Qui disqualifie beaucoup de
mais justement ça, jeunes. Oui. Justement. Donc, c'est cela le problème. Mm. Bon, un jeune qui vient de finir les études universitaires, vous lui exigez 2 à 5 ans d'expérience professionnelle alors que lui n'a pas encore travaillé.
Oui.
Vous voyez que vous pouvez déjà le décourager. Mais la question aussi, pourquoi ces recruteurs-là exigent 2 à 5 ans d'expérience? Parce qu'ils n'ont pas le temps à perdre. C'est différent, monsieur le journaliste de la fonction publique, par exemple. On vous recrute avec votre diplôme universitaire. On va vous former parce que vous allez faire carrière. Ou les cas des banques. Mais est-ce que, avez-vous déjà vu, par exemple, quand quelqu'un est recruté à la fonction publique, je crois que ce sont des grades, non? Mmh. On dit attaché des bureaux de première classe ou de deuxième classe, mais il n'y a pas un job description. Ou non, vous êtes là, par exemple, assistant en communication,
oui.
L'équivalent d'attaché des bureaux, deuxième classe, voici votre job description. Je ne pense pas que ça existe à la fonction publique.
Oui.
Alors, c'est là la difficulté. Mais maintenant, chez les privés, on gagne le temps. On n'a pas besoin de recruter quelqu'un qu'on doit encore former et par après attendre que cette personne puisse être productive.
Mmh.
Et ils coupent court, ils préfèrent recruter les compétences sur base d'un job description ou d'un job profile. Maintenant, celui qui cherche de l'emploi, malheureusement, ne correspond pas aux exigences du marché de l'emploi. D'où la nécessité pour ces gens de se faire former avant d'aller chercher de l'emploi. Mais malheureusement, ce qu'on constate surtout chez les Africains francophones.
Oui. Qu'est-ce qu'on constate généralement?
On est en train de vénérer les diplômes en lieu et place de chercher des compétences. Mmh. Vous trouverez le CV d'une personne avec une seule page. Qu'est-ce qu'il y a dedans? École primaire, études faites,
tout ça.
C'est tout. Non.
Voilà. Stage professionnel.
Non, c'est pas les diplômes qu'on recrute. On recrute les compétences. Il faut vraiment insister.
Oui.
Aux jeunes universitaires, la nécessité de se faire former avant d'aller chercher de l'emploi. Ça, en tout cas, il ne faut même pas tourner sur la peau.
D'accord. Merci beaucoup. Nous parlons aujourd'hui de comment améliorer l'employabilité des jeunes, comment aider les jeunes à augmenter leur valeur sur le marché de l'emploi. Nous en parlons avec Monsieur Alain Poutou, mais il n'est pas seul dans ce studio. Nous allons accueillir Monsieur Gilbert Moutamba, qui est le directeur de formation. Il est basé à UK. Voilà. Il est avec nous aujourd'hui comme intervenant dans cette émission. Monsieur Gilbert, bonjour.
Bonjour, monsieur.
Bienvenue dans cette émission de la vie au quotidien, au CAPI Service. Alors, vous êtes directeur de chargé de la formation au sein de la structure HCDIC, qui est une structure de développement du capital humain. Alors, nous parlons de l'employabilité des jeunes. Comment aider les jeunes à augmenter leur valeur sur le marché de l'emploi?
D'accord. C'est une problématique qui est assez vaste. Il y a deux perspectives. La première perspective, comme mon confrère que je salue,
c'est Alain Poutou. Oui.
Là, si bien dit, il y a la perspective donc des l'employé, donc les demandeurs de l'emploi, et il y a de l'autre côté celui qui offre l'emploi, qui est l'employeur. Donc les deux perspectives doivent marcher ensemble. S'il y a un écart, donc cet écart-là fera que c'est lui, nous appelons ça en anglais, donc le bargaining power, c'est lui qui a le pouvoir, c'est l'employeur. Donc, il va pouvoir user de son pouvoir pour chercher donc ailleurs. Donc, la première chose que je voudrais vous dire, c'est que, donc, comment est-ce que l'employé lui-même se voit? C'est la première problématique. Ok? Donc, il y a quelque part, pour ceux qui croient, ils disent que, donc, faute de vision, tout un peuple va périr. C'est pour cela que vous voyez que dans un bateau, par exemple, il y a des capitaines. Dans un avion, il y a, par exemple, donc, les commandants de bord. Donc, c'est la seule personne à bord qui commande. Mais ici, chez nous, donc, vous trouvez ce que nous appelons donc des généralistes. La première des choses, c'est que comment est-ce que cet employé ici se voit lui-même? Est-ce qu'il se voit comme une ressource humaine? Ok, une ressource humaine? Ou se voit comme un capital humain? Ok? Moi, je serai donc peut-être dans, aligné avec mon confrère. Quand vous êtes une ressource se consomme et s'épuise, c'est fini. Un capital, si je viens ici, vous me demandez un capital, donc je vous donne 200 dollars, je reviens après-demain, oui. Je dis, mais qu'est-ce que vous en avez fait? Donc, vous me présentez un téléphone iPhone, donc je dirais que, comme les croyants disent, donc vous êtes un serviteur donc qui a reçu un talent et vous n'en avez rien fait, donc mettez-la à la porte.
Mettez, donc, les déclasser.
Oui, j'aborde d'abord la première perspective, c'est la perspective donc de l'employé. Nos employés ou nos gens qui cherchent l'emploi, ils se voient comme une ressource humaine. Donc, Nazali, comme on dit donc en Lingala, Nazali, donc marchandise. Nakende komiteka.
Komiteka, sur le marché.
Or, les employeurs ne cherchent pas donc des non marchandises, pas ces marchandises à consommer. Ils cherchent donc à pouvoir investir dans un capital. C'est pour cela, bango mutubasa les ressources humaines, babengaka biso, babengaka, ce qu'ils appellent retour on investment. Quand on emploie quelqu'un, c'est un investissement. L'argent qu'on a dépensé pour le processus de, donc de recrutement. Aujourd'hui, dans notre pays, il faut donc l'administration, il faut l'ONM. Okay? Il faut légaliser auprès, par exemple, donc de l'inspection du travail. Il faut informer, donc, ce que ça coûte de pouvoir employer quelqu'un. C'est de l'argent qu'on regarde comme ça, on se dit, pourquoi ne pas prendre un freelance s'il est compétent de pouvoir être donc au travail, donc jugé. Même dans votre secteur, vous le faites.
Mais M. Gilbert Moutamba, il semble que les jeunes aussi ne savent pas comment chercher le travail. Il a fini les études universitaires, mais il se retrouve, voilà, il est là, bon, je commence par où, il ne se retrouve pas.
Non, les problèmes, c'est que nous sommes en train de pouvoir inverser, nous sommes en train de pouvoir tenir les taureaux par, donc, par les cornes. Donc, c'est déjà même à la source, ils ne savent pas donc quelle filière donc il faut sélectionner pour aller faire. Est-ce que même la question, il y a l'inadéquation de dire, je suis parti donc pour chercher un diplôme. Est-ce que l'employeur, lui, a besoin de diplôme? Combien des confrères terminent donc à l'université donc des sciences de l'information? Des milliers, n'est-ce pas? Chaque jour, comme les Kinois disent, donc à Longinaï, n'est-ce pas? Mais combien trouvent de l'emploi?
Ils sont pas nombreux.
Ok. À la base, ils devaient pouvoir se poser la question. Le marché donc de l'emploi comme journaliste, il est comment? Il est structuré comment? Avant de pouvoir même aller faire le journalisme, ou alors je veux aller faire la communication d'entreprise. Ou aller déjà vers la communication institutionnelle.
Donc, il y a une sorte d'analyse de,
vous analysez,
du secteur.
Vous analysez le secteur. Mais ici, donc, on s'est dit, non, j'ai été fort en mathématiques. Je vais aller faire, par exemple, donc, l'informatique. C'est un exemple. Ou j'ai été fort en littéraire. Je parle mien. Quand j'ai présenté, mes professeurs me disaient, ah, ben, tu es comme un journaliste. Donc, je vais pouvoir aller. Vous savez, aujourd'hui, par exemple, les journalistes de sport. Sportif. Ok? Bon, je félicite Radio Capi, il en a, mais allez sur le marché s'y en trouver. Combien ont été, quand notre équipe est partie, ont été agréés? Parce qu'on voit le cursus, on voit l'expérience. Ce n'est pas que, donc, aujourd'hui, vous dites, non, j'ai fait l'IFASIC, je vais aller couvrir un événement.
Non, ça ne suffit pas.
Ça ne suffit pas. Vous comprenez? Donc, vous devez pouvoir, donc, avoir l'expérience dans ce domaine, ou alors avoir fait un stage pour savoir comment est-ce que les sports, au niveau des compétitions internationales, fonctionnent. Et donc, lorsque vous allez vous acquérir...
Vous avoir suivi des formations
absolument,
complémentaires.
Absolument. Sinon, vous allez vous contenter à pouvoir avoir des WhatsApp, alors que vous êtes parti pour couvrir un événement. Vous ne les couvrez pas en direct. Vous attendez à ce que les autres vous envoient des WhatsApp. Donc, vous regardez maintenant, vous essayez de pouvoir commenter. Donc, c'est cela, donc, la grande inéducation. C'est que, donc, on va, donc, à l'école. Donc, déjà, les humanités, on les choisit parce que papa ou maman a dit. Ou alors, là, il y a une certaine... Donc, peut-être on s'est dit, bon, c'est là où les parents peuvent, donc, m'envoyer. Ça, c'est mieux. L'enfant n'a pas eu les choix.
Je parlais d'ailleurs avec M. Moutamboulé qui me dit qu'il y a des enfants, papa a payé pour lui les études. Après les études, c'est papa qui commence à chercher même le travail pour son propre enfant.
J'ai un cas, donc papa a payé, le papa a payé, maman a payé, donc jusqu'au
doctorat.
Et oui.
Jusqu'au doctorat. Donc il est donc tout, il a fait toute sa carrière donc sur les
matériaux. Et c'est lui qui cherche de l'emploi encore pour
et
son enfant.
Et la personne est en train de venir me voir, dit est-ce que tu peux pas intervenir pour que je. J'ai dit mais tu as fait quoi? Je fais le doctorat. Doctorat en quoi? Ingénieur en électricité. Ben attends. Tu l'as fait où? Non, j'ai terminé ici et puis on m'a envoyé à l'extérieur, aller étudier à l'extérieur. La personne a étudié à l'extérieur et qu'on soit revenu. Donc, est parti faire l'ingénierat donc, en électricité donc, dans un système anglo-saxon. Toute la technique qu'il connaît, c'est donc en anglais. Quand il revient ici, on lui parle donc des réseaux. Lui a appris là-bas grid. Il ne sait pas.
Il est dépaysé.
Comprenez. Oui. Quand on lui dit, va donner peut-être un peu cours, peut-être à l'université, donc, je ne vais pas citer les noms, la personne arrive là-bas, donc les concepts que lui a appris et les systèmes, comment ça fonctionne, donc il y a
inadéquation.
Alors, qui t'avait dit de pouvoir choisir aller faire l'électricité? Non, j'avais fait maths physique. Très bon. Ok? J'avais fait maths physique, c'est très bien. Tu étais fort en quoi? Non, j'étais fort en physique et donc en mathématiques. Moi, d'ailleurs, je voulais faire la médecine, mais les parents ont dit, comme tu es fort, ainsi de suite, va faire. Ils ont tout payé. Mais pour ramener, donc, 3 diplômes. Niveau 1, niveau master, niveau, donc, pour être ingénieur, donc, électricien, donc, il faut faire minimum 7 ans, donc, de doctorat.
C'est beaucoup tout ça. Monsieur Alain Poutou.
Oui. En fait, je salue Monsieur Gilbert, un des experts internationaux. Je suis très content qu'il puisse nous rejoindre dans ce studio. Ce qu'il dit, il a totalement raison. Ça dit, il y a le marché de l'emploi, les recruteurs et les chercheurs d'emploi. Est-ce que celui qui cherche de l'emploi a-t-il été formé ou préparé pour répondre aux besoins réels de celui qui recrute? C'est là la question.
Oui.
Et c'est là où j'ai dit, monsieur le journaliste, excusez-nous, c'est pas que nous sommes trop sévères, mais on est en train de se dire à un certain moment qu'on devait quand même s'arrêter à un moment donné. Essayez un peu de faire une évaluation globale. Est-ce que tout le monde est censé aller à l'université? Est-ce que tout le monde est censé aller à l'université? C'est cela la question. Nous avons mis en place un programme. On va lancer nos activités sur les enquêtes métiers qu'on va déployer dans tous les pays pour faire la cartographie des emplois et métiers le plus recherchés. Comme ça, d'un côté, on a les enquêtes métiers pour ressortir les profils recherchés par les marchés de l'emploi. De l'autre côté, on a des filières organisées par les universités. Vous êtes journaliste expérimenté et très bien formé. Vous pouvez aller poser la question au ministère de l'enseignement supérieur universitaire qu'on vous sorte les statistiques. Des diplômes par filière. Ok, quelles sont les filières que nous avons? On peut prendre les 10 dernières années. Nous sommes en 2026. On peut partir de 2016 en 2026. Les diplômes délivrés par filière. Et d'un côté, vous comparez les besoins réels du marché d'emploi par profil. Vous allez vous rendre compte qu'on va se retrouver avec des filières qui n'ont rien à voir avec les marchés d'emploi. Et malheureusement, les gens sont allés s'inscrire et ont obtenu des diplômes dans ces mêmes filières.
Mais ils n'ont pas d'emploi.
Mais justement, c'est pour cela, il est important, avant d'aller chercher de l'emploi, de se faire accompagner par un cabinet, par des experts en orientation et insertion professionnelle. C'est important. Mais vous voyez, par exemple, lui vient de l'Angleterre. Dans des pays développés, c'est-à-dire chaque personne... Même par exemple, vous avez un problème, vous devez avoir un avocat. Vous avez un problème qui concerne la santé, vous avez un médecin. Mais pourquoi est-ce que ici chez nous, les chercheurs d'emploi n'aiment pas se faire accompagner? Comment vous pouvez aborder les marchés d'emploi alors que vous vous sortez fraîchement de l'université?
Qui ne vous a pas préparé à l'emploi?
Tout à fait. J'ai fini à l'UFASIC, excusez-moi, peut-être je cite le nom de l'université, je vais parler de la communication. Mais monsieur Jody, ça fait plus de 25 ans que vous êtes dans ces métiers ici. Combien d'étudiants finalistes qui vous ont choisi, vous, comme leur mentor dans le domaine de l'insertion professionnelle en communication? Non, mais soyons sérieux. Des gens qui finissent en comptabilité, par exemple, devaient aussi chercher ceux qui sont comptables dans des entreprises.
Pour se faire coacher.
Mais c'est très important.
D'accord, on va accueillir les auditeurs. Nous parlons de l'employabilité des jeunes. Gentil Bassekwamba nous appelle des Kananga dans les Kasaï Central. Tagamile Agati Jonathan est à Bounia. Pati Maimba à Bandundouville. Blaise Saïdi est à Kisangani. Gentil Bassekwamba depuis Kananga, bonjour. Merci d'activer vos micros. Bonjour Gentil.
Oui, bonjour. Bonjour aussi à nos auditeurs. Bonjour aussi à tous les auditeurs de la radio Catholique Principale.
Bien, est-ce que vous avez activé la main libre ou pas? Parce qu'on.
Oui, vous me suivez très bien.
Oui, merci de si c'est fait. Merci de désactiver la main libre. Vous allez, on va la qualité de son sera meilleure.
Ok. Je l'ai déjà fait.
Ok, allez-y.
Vous me suivez alors?
Oui, c'est bon maintenant.
23 minutes, s'il vous plaît, que je donne mon point de vue et puis proposer des questions là-bas. La question de l'employabilité des jeunes aujourd'hui est préoccupante. Beaucoup de jeunes terminent leurs études avec des diplômes, mais ils ont du mal à trouver un emploi stable. Et même quand ils en trouvent, ils n'arrivent pas à les garder longtemps. À mon avis, il y a un problème de fond. C'est le décalage entre la formation réussie et les réalités du marché du travail. Nos universités mettent beaucoup l'accent sur la théorie, mais pas à sorte de diplôme, mais sans compétences qu'on est directement utilisables. Il y a aussi un manque d'orientation. Beaucoup de jeunes ne savent pas où chercher les offres d'emploi. Comment préparer un bon CV ou réussir un entretien. Il manque également un autre point important, c'est le manque de culture entrepreneuriale. Aujourd'hui, plusieurs jeunes attendent uniquement d'être embauchés, alors qu'ils pourraient aussi créer leur propre activité, même en petite échelle. Pour moi, il est important d'agir à plusieurs niveaux. D'abord, renforcer la formation pratique avec des stages et des apprentissages sur le terrain. Ensuite, adapter les programmes universitaires aux besoins réels du marché. Il faut aussi encourager l'entrepreneuriat et former les jeunes aux compétences pratiques comme et leadership. Enfin, il est nécessaire de mieux orienter les jeunes et de les informer sur les opportunités.
Merci
laissez-moi
beaucoup.
Poser quelques questions à nos invités. Pourquoi aujourd'hui les diplômes universitaires ne suffisent pas pour obtenir un emploi? Deuxième question, quelles réformes concrètes faut-il apporter au système éducatif pour mieux préparer les jeunes?
Merci.
Troisième question,
merci.
Comment un jeune peut-il acquérir les, alors que les entreprises exigent déjà les expériences?
Merci, merci.
Quatrième question, l'entrepreneuriat est-il vrai? Est-il vrai une solution pour tous les jeunes, même sans moyens financiers?
Merci de laisser aussi la place aux autres pour poser la question. Merci beaucoup, Gentil Bassekwamba. Tagamile Agati Jonathan, depuis Bounia, bonjour.
Les plus opportunités...
Tagamile, vous êtes là, bonjour. Merci d'activer votre micro. Tagamile Agati Jonathan, depuis Bounia, merci d'activer le micro. On va aussi accueillir Pati Maimba, depuis Bandundouville. Bonjour, Pati.
Allô, cher Jodi.
Oui, Pati, bonjour.
Bonjour à vous tous. La question que moi je peux poser pour Mélodie, c'est dans ce pays, y a-t-il réellement des chômeurs? Et si jamais il y en a, on peut évaluer à quel pourcentage? Parce qu'on apprend dans des universités, c'est que la société a besoin seulement. C'est les jours et la nuit. Moi, je pense que tout le monde se dit que là, c'est d'abord mieux de se banquerier, se demander si c'est là, à l'école ou à ce où il a été. C'est ce qu'on a besoin réellement. Est-ce qu'il y a des questions là? Bon. Et là, nos invités qui sont là au plateau, je pense qu'ils sont bien outillés. Ils voient ce qu'il y a, ce qu'on n'a pas à l'université et ce qu'on a besoin réellement. Quel conseil ils peuvent donner à nos dirigeants? Et surtout que nous sommes dans des universités, dans des écoles.
Ben, il y a un souci hein, au niveau de la communication, Patti Maïmba. Mais on a quand même retenu l'essentiel. Oui. Merci beaucoup. On va donner la parole à présent à Tagamile Agati depuis Bounia. Tagamile, bonjour. Oui, il y a quelques soucis avec la... Tagamile, est-ce que c'est possible de bouger un peu? Peut-être que ça, la communication peut, la qualité peut s'améliorer. Allô? Désolé.
Merci beaucoup, vous m'attendez. Et là, vous m'attendez.
Oui. Vous sortez un peu coupé, allez-y quand même.
Oh, merci, je salue aussi les invités qui sont avec vous. J'aimerais un adage, ça charge au genou et quelqu'un entre et à la mer. Alors, j'ai aimé les interventions de M. Alain avec qui est avec vous. Mais vous savez, j'ai d'abord quelques deux questions à poser. Quelle serait la différence entre les Alain Poutou et Chapé avec les autres centres de formation, par exemple, qui est NPP? Mais aussi, il y a question des processus de recrutement et ça fait entre. Vous savez, il y a ce que lorsque une offre, les gens viennent postuler. Et alors, là, les premiers, c'est de la sélection. Les gens doivent passer à des tests.
Oui. Alors, oui, allô, mais désolé, on a juste capté quelques bribes de vos questions, la différence entre les centres de formation que vous avez et l'INPP. Alors, vous étiez en train de parler du processus de recrutement, c'est ça? La deuxième question, c'est laquelle?
Oui, alors, il est question de savoir, comme j'ai... Mais c'est à l'homme...
Désolé, Tagamile, on n'arrive pas à bien vous capter. Blaise Saïdi, vous êtes à Kisangani, bonjour. Merci d'activer, d'ouvrir les micros, Blaise Saïdi. On va également recevoir Ruffin Basso-Bantou depuis le Likasi dans le Haut-Katanga. Nous parlons de l'employabilité des jeunes aujourd'hui. Blaise Saïdi, vous êtes là?
Oui, je suis là, cher, je dis bonjour.
Bonjour, Blaise, on vous écoute.
Merci beaucoup. Je dois donner juste une contribution à cette thématique et citer par quelques questions. Donc pour cette thématique, j'aimerais assez qu'on cherche un peu à soutenir l'entrepreneuriat, en fait d'aider les jeunes à mieux s'intéresser professionnellement. La première question, cher Jody, vous
êtes... Allô?
Ça, la première question.
Non, on a même pas suivi la première question. Pouvez-vous répondre?
Allô?
Les lignes sont difficiles aujourd'hui.
Oui. Les lignes posent problème.
Posent problème.
Vraiment, voilà. J'ai parlé ceci. Quel est des jeunes en RDC?
Pardon, pouvez-vous
la
reprendre?
Deuxième question.
Pouvez-vous reprendre la première?
La première, je reprends encore, quel obstacle?
Ben, je comprends que les obstacles, sûrement, à l'emploi des jeunes.
L'employabilité en RDC.
Bien, merci. Ruffin Bansobantou, vous êtes
là. Voilà, la deuxième question.
Oui, deuxième.
Allô. Allô?
Oui, on vous écoute.
Comment réduire l'écart entre la formation et l'emploi? La troisième question, existe-t-il en RDC une organisation regroupant les chômeurs afin de faire pression sur le gouvernement? Je me limite à ce niveau de
Merci beaucoup, Ruffin Bansobantou. Vous êtes à Likassi, dans le Haut-Katanga. Bonjour. Ruffin, bonjour.
Bonjour, merci, monsieur Jody Kachama. J'aimerais saluer aussi les invités du jour, monsieur Alain Poutou, ainsi que les combattants, les co-débatteurs qui sont en train vraiment d'animer ensemble avec lui.
Monsieur Gilbert Moutamba.
Dans les studios.
Oui.
Monsieur Gilbert Moutamba, oui, oui.
Voilà, allez-y.
Oui, monsieur Gilbert Moutamba. Oui, ma préoccupation, elle est vraiment la suivante. Nous avons constaté qu'en RDC, toutes choses doivent vraiment s'organiser à partir de l'État congolais. Vous savez, comme dans un match de football, le coach ne peut pas vraiment constater toutes les erreurs des joueurs qui prestent vraiment pendant les matchs. Et maintenant, nous avons constaté qu'il y a des erreurs. Tout d'abord, de la transformation là, qui tend, voire même allant vers le système de LMD aux universités. Oui, il y a un problème. On allait faire quoi? Parce que dans l'ancien système, l'étudiant devait prendre 5 ans. Et maintenant, actuellement, nous sommes en train de constater qu'on a réduit les 5, on est parti de 5 à 3 ans. Et maintenant, on ne devait pas casser les 2 ans là. Les 2 ans là devaient servir à l'étudiant pour, tout d'abord, c'est avec le système des stages. Il allait passer 2 ans de stage pour mûrir tout d'abord sa capacité. Parce qu'actuellement, nous sommes en train de constater que les jeunes se plaignent que « Oh, pourquoi au travail, on est en train de prendre toujours les vieux papas, mais nous, on ne nous prend pas. » J'ai compris que les vieux papas-là sont bien assis à la matière, oui. C'est la raison pour laquelle on les prend. Merci. Et puis aujourd'hui, nous sommes en train de constater qu'il y a certaines jeunes et qu'il y a certains jeunes qui sont en train d'être pris.
Oui.
Parce qu'ils se sont donnés, auprès des autres. Et maintenant, au Congo, la défaillance qui est là, c'est quoi? Quelqu'un peut se dire que non, lorsque je vais faire les stages avec M. Jody Daniel Kachama, il faut qu'il me donne de l'argent. Non, ce n'est pas comme ça. On peut le faire gratuitement.
Gratuitement, merci beaucoup.
Oui, c'est un peu ça. Donc, les jeunes doivent, savoir aussi faire quelque chose gratuitement. Merci.
Merci. Thomas Ougeni, vous êtes à Kisangani. Bonjour. Thomas Ougeni, depuis Kisangani, Boyoma, Singamwembe. Bonjour. Bien, je pense que il n'est plus là. Monsieur Gilbert Moutamba, vous avez suivi les différentes préoccupations des auditeurs. Oui. À vous la parole.
Merci beaucoup. J'aimerais d'abord revenir au niveau du dernier intervenant pour dire que la RDC a mis donc un arsenal donc des lois. Vous ne pouvez pas employer quelqu'un pour un stage qui n'est pas d'études. Si c'est devenu un stage professionnel, donc vous devez pouvoir le payer. Okay. La loi prévoit donc.
Dans le stage professionnel, il faut payer.
Il faut payer.
Okay.
La loi prévoit. Et il y a donc une durée qu'on ne peut pas dépasser. Donc, je crois que c'est de 3 mois. Donc, renouvelable, monsieur Poutou doit savoir ça. Donc, renouvelable, non renouvelable. Donc, après cela, il faut déterminer les statuts donc de l'employé et donc du stagiaire. Et parce que nous parlons de la rémunération, donc ce n'est pas parce qu'il est stagiaire que vous allez pouvoir lui ôter ce qu'on appelle donc les avantages sociaux. Okay. Vous devez pouvoir les traiter comme tout autre, donc il doit pouvoir bénéficier d'un transport pour arriver sur le travail, rentrer à la maison, en dehors de la rémunération qui est prévue par la loi. Et vous devez pouvoir donc prévoir donc les soins médicaux, parce que nous, les petits employeurs, donc nous souffrons beaucoup. Donc vous ne pouvez pas prendre pour prendre. Et vous devez pouvoir donc lui donner un mentor, quelqu'un qui doit pouvoir assurer la supervision et qui doit pouvoir établir en bonne et due forme un certificat, oui, de stage et indiquant ce qu'il a fait. C'est ce que la loi dit.
Mais d'accord. Il y a une question importante. Comment réduire l'écart entre la l'inadéquation entre la formation académique et les besoins réels sur le marché?
Je suis en train de pouvoir venir là-dessus. Nous avons déjà posé les premiers jalons. C'est que les premiers jalons, c'est un jalon donc qui provient donc de la famille. Nous parlons ici de l'organisation la plus nucléaire, la plus petite possible, la famille. Donc, nous, ici à RDC et même à l'Afrique, donc nous imposons aux enfants ce qu'il faut pouvoir faire. C'est mieux, mais on impose cela parce que Noko a été docteur et on voit que sa vie est bonne. Donc, on voudrait que l'enfant aussi qui a fait la biologie chimie, comme Noko, allait devenir docteur. Mm. Est-ce que vous êtes posé combien de questions? Combien de médecins, donc de ceux qui sont formés ici à l'université, dans l'université ici, sont chômeurs, ont l'air donc diplôme en train de pouvoir chercher de l'emploi, à pouvoir chercher même devenir peut-être être infirmier, employé comme infirmier. Ils ne trouvent pas d'emploi, je vous dis. Il y en a nombreux.
Il y a un médecin qui
cherche. Absolument, absolument. Ils sont nombreux. Faites un appel, vous allez voir. Dites que donc tout celui qui est médecin, qui a fini donc ses études qu'on appelle donc en sciences bio médicales et donc qui a au moins le niveau donc des doctorats, quand je dis donc médecin généraliste qu'on appelle, et envoyez-nous les CV, vous allez voir, ils sont en des milliers.
Donc, il y a besoin aujourd'hui de passer par des centres de formation comme le centre de formation de reconversion professionnelle. Il y a HCDIC.
Oui, je suis en train de pouvoir en venir. Dernièrement, j'ai employé, donc j'ai formé donc 3 médecins. Ok, médecins, non pas généralistes, spécialistes. Donc, l'un pour ressources humaines. Vous allez pouvoir rigoler. Médecin. Il a pratiqué, il a dit non. Je vais devenir ressources humaines.
Il fait la reconversion professionnelle.
Il est un très bon ressource humaine.
Ok.
Deuxièmement, donc l'autre, il est médecin. Il a dit non, j'en ai marre. Je voudrais faire la logistique.
Et ça marche?
Et ça marche. Parce qu'ils sont formés donc dans ce que nous appelons un environnement qui est contrôlé. Ils fonctionnent avec donc des paramètres. Donc là, ils deviennent un peu comme les ingénieurs. Donc la problématique, nous venons de la poser, donc, le premier problème, c'est que c'est le choix de l'enfant lui-même, donc du futur employé, déjà dès l'école primaire. Donc avec les systèmes que nous avons ici, on a supprimé beaucoup de choses. Donc il faut savoir qu'est-ce que l'enfant voudrait devenir. Deuxièmement, donc ce n'est pas l'éducation formelle qui chez nous ici donne donc la voie à l'employabilité. Je vais vous donner mon exemple personnel. Donc j'ai été formé dans ces systèmes. Okay? Donc j'ai fini à l'université de Kinshasa et mon premier emploi à l'extérieur, bien que j'étais super qualifié, okay? Donc on m'a demandé de pouvoir prendre mes pioches, aller sur donc les sites. Parce que je faisais donc le commerce extérieur, la logistique internationale et donc les supply chain.
Et votre premier emploi, c'était dans quel secteur?
Je suis parti donc d'un emploi d'un jour, aller sur les sites où on est en train de pouvoir construire parce que c'est là, donc pour voir comment ça se passe. Vous savez pourquoi?
Pourquoi?
C'était pour aller me faire voir si on n'a pas dit qu'est-ce que je vais faire comme travail. Ce qu'on appelle health and safety. Dans un environnement donc où je serai à la tête des bateaux qui sont en train de voir se croiser, des cargos qui sont en train de voir transporter, d'autres en train de voir décoller. Je dois avoir donc en premier lieu ce qu'on appelle une mémoire d'éléphant en ce qui concerne les détails pour l'hygiène, la santé, la sécurité, la sûreté et l'environnement dans mon milieu de travail.
D'accord, merci. Monsieur Alain Poutou, on s'achemine petit à petit vers la fin de l'émission. On annonce d'ailleurs que Monsieur Gilbert a parlé de la reconversion professionnelle. Vous allez en parler d'ailleurs dans des conférences prévues à Kolwezi et à Lubumbashi cette année.
Effectivement, nous avons mis en place un consortium. Il y a les centres de formation de reconversion professionnelle. Oui. Il y a Bismart et Aciduc. Nous avons mis en place un consortium pour l'orientation professionnelle. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on a fait? Nous avons fait un travail de fond. On a fait l'enquête métier. On a identifié les profils les plus recherchés par les recruteurs en prenant les offres d'emploi qui reviennent souvent. Quels sont les postes pour lesquels les besoins du marché, met l'accent. Oui. On a identifié ces emplois. Maintenant, on prend chaque intervenant, chaque formateur forme en fonction de ce que lui-même fait au quotidien. C'est-à-dire, si on veut former des journalistes praticiens, des journalistes terrain, des journalistes présentateurs, on fait recours à un expérimenté comme vous, qui êtes dans la profession, pour apprendre à ces gens ce qu'on fait au bureau. S'il faut former des comptables, on fait recours à quelqu'un qui occupe les postes de comptables pour que la personne forme les chercheurs d'emploi dans ce qu'on fait sur terrain. Raison pour laquelle on a compris que beaucoup de gens qui sont au chômage, parce que, un, ils savent pas comment chercher de l'emploi ou trouver les offres d'emploi, ils savent pas comment présenter les dossiers des candidatures, les gens ne savent pas comment passer les entretiens d'embauche, comment rédiger une lettre de motivation que beaucoup confondent à la demande d'emploi, et à la rédaction d'un CV détaillé, actualisé avec les 10 rubriques que l'université n'a pas enseignées, mais aussi il y a la reconversion professionnelle, c'est-à-dire j'ai fait telle filière à l'université, peut-être j'étais mal orienté, mais les besoins du marché sont ailleurs, maintenant comment faire la reconversion professionnelle, c'est faire former par rapport aux opportunités réelles du marché de l'emploi. Alors, c'est dans ce cadre-là que nous allons organiser, dans tous les 26 chefs-lieux de province, ça j'insiste, un grand programme de job conférences. C'est-à-dire, les gens seront dans une grande salle, chacun vient avec son ancien modèle de CV, on va apprendre aux gens comment faire la reconversion professionnelle et comment suivre des formations métiers adaptées aux opportunités du marché d'emploi. Déjà, comme vous venez de le dire,
le 7 et le 8, vous serez
le 7 et le 8, nous serons à Colusie.
7 et 8 mai.
Voilà, 7 et 8 mai, en face de Jambo Marthe à Colusie. Ça sera une très grande activité.
Dans la salle Jamad.
Voilà, tout à fait. Ça, c'est vraiment, j'invite tout celui qui est à la recherche d'emploi. J'invite même ceux qui travaillent. Les parents qui ont les enfants à l'université, parce que le premier conseiller en orientation professionnelle, c'est les parents. J'invite aussi les élèves qui sont en sixième des humanités, qui vont présenter leurs examens d'état cette année, parce que eux vont aller à l'université. Comment faire les choix d'une filière pour ne pas faire l'autodestruction?
Et ensuite, vous serez à Lubumbashi.
Le 13 et le 14 mai dans la salle à Roupé sur l'avenue Kilela Balanda. Donc ça, ce sont les programmes pour les grands Katanga. Et puis ensuite, on va aller à Kisangani, à Bunia. On sera à Matadi. Nous serons aussi dans les deux Kasaï, ici aussi à Kinshasa. Donc c'est vraiment un programme. Ça, c'est notre contribution aux efforts du gouvernement. Comme nous vous avons dit, nous avons décidé d'appuyer le gouvernement, parce que tout le monde ne peut pas être ministre, tout le monde ne peut pas faire la politique. Quand on a l'expertise technique, on peut aussi aider son pays.
Donc les jeunes viennent avec leur CV.
Mais qu'ils viennent avec leur CV, c'est-à-dire à la fin de l'activité, chacun va rentrer chez lui à la maison avec un modèle, un nouveau modèle du CV avec les 10 rubriques.
Oui.
Aussi, on va mettre à la disposition de tous les chercheurs d'emploi les différents sites internet pour trouver des offres. Parce que les gens se posent la question, mais je cherche du travail, je n'en trouve pas. Mais la question, où est-ce qu'ils cherchent ça? Vous comprenez, c'est très important d'organiser ce genre d'activité. Bon, si le gouvernement trouve qu'il peut nous venir en aide parce que ce qu'on fait, c'est vraiment aussi aider les pays, il n'y a pas de problème, nous allons le faire.
On peut vous joindre dans quel numéro?
Ok, on peut nous appeler au 082 53 90 016 082 53 90 016 ou on peut nous contacter par WhatsApp ou nous envoyer un message ou nous appeler au cas où il y a un parlementaire par exemple et qui veut que nous puissions dupliquer cette activité voilà, dans sa circonscription électorale en lieu et place d'attendre 2028 pour donner des polos aux gens. C'est bien, c'est important d'investir au renforcement des capacités.
Merci beaucoup M. Gilbert Mutamba. En quelques mots, quelques secondes pour terminer.
Moi je suis écœuré de voir que la plupart des jeunes cherchent donc de l'emploi mais ne savent pas. Le gouvernement de la République démocratique du Congo venait de pouvoir signer un accord important. Je ne sais pas combien de jeunes ont lu cela. Parmi donc les quatre piliers, donc il y a trois qui sont techniques. Donc vous avez les mines, vous avez donc l'électricité et vous avez donc les rails, donc la construction de voitures. Mais il y a l'emploi, le quatrième pilier, c'est l'emploi.
D'accord.
Donc, alors, en tant que technicien sur le terrain,
oui.
Je suis écœuré de voir que même maintenant où nous parlons là, vous avez des textes.
On va y revenir comme on n'a plus beaucoup de temps. Merci beaucoup. Je rappelle que vous êtes formateur, directeur chargé de la formation à HCDIC, une structure de développement du capital humain. C'est par ici que s'achève cette émission. Merci de nous avoir suivis. À la prochaine.